France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
On n'arrête pas de nous dire que le Grand Louvre va être le plus grand musée du monde dans le pays des droits de l'homme. Je vois pas comment on peut être le plus grand musée du monde alors qu'on écarte le continent américain, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, Arctique, toute l'Afrique, toute l'Océanie et toute l'insula. C'est d'ailleurs les trois quarts du monde.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le cambriolage spectaculaire qui vient d'affecter le musée du Louvre a touché la nation tout entière. Il a confirmé la place que celui-ci occupe dans notre fierté collective. Mais l'événement incite aussi à s'interroger à nouveaux frais, compte tenu notamment des objets volés, sur la nature et la vocation de cette institution sans pareil, et par là, à retrouver des controverses qui ont prospéré depuis plus de deux siècles. Il s'agit de la définition des œuvres qu'il reviendrait au Louvre de conserver et de donner à voir. Une certaine conception de l'histoire des créations de la civilisation occidentale a longtemps prévalu, se fondant sur la croyance en un processus progressif vers le plus haut de la beauté, le reste de la terre étant perçu comme inférieur et en tout cas retardataire. Mais cette idée impérieuse a été constamment remise en cause de génération en génération par ceux qui refusaient toute hiérarchie dans l'art des divers continents. Fallait-il accueillir des œuvres du reste du monde dans les collections du Louvre au nom de l'universalisme, ou bien fallait-il les reléguer dans d'autres musées selon des critères plus ethnographiques qu'esthétiques? On ne trouve rien de linéaire dans la chronique de cet affrontement, mais la résurgence cyclique des mêmes revendications et des mêmes passions. Voici quelques années, à l'initiative bienvenue de Laurence Descartes, présidente directrice du Louvre, un cycle de 5 conférences y a été confié à Pierre Singaravelou, professeur à l'université de Paris 1 Sorbonne, qui a jeté sur ce passé une lumière nouvelle. Il en a tiré un beau livre sous le titre « Les fantômes du Louvre ». Il y rappelle qu'au XIXe siècle spécialement, nombre de mini-musées ont été accueillis avec une autonomie affichée à l'intérieur même du Louvre et que ce fut un choix fragile mais de grande portée, en termes autant symboliques que concrets. Et pour commencer, écoutez donc ce reportage à l'occasion de l'inauguration par Jacques Chirac, président de la République, en avril 2000, de 2 salles consacrées aux arts primitifs et qui sont logées au musée du Louvre. C'est un extrait du journal de 13h sur France Inter, le 13 avril 2000.
Pour laisser une trace dans le Paris culturel, Georges Pompidou, président, avait fait construire Beaubourg, Valéry Giscard d'Estaing avait fait aménager le musée d'Orsay, François Mitterrand la très grande bibliothèque, et pour Jacques Chirac, quelle sera l'œuvre du président de la fin du deuxième millénaire? Eh bien ce sera le musée des arts premiers. Jacques Chirac y tient comme à la prunelle de ses yeux, et n'étant pas sûr d'être encore président le jour de l'ouverture, il a inauguré ce matin une sorte de produit d'appel de ce futur musée, 120 sculptures qui s'installent définitivement au musée du Louvre.
Plus d'une heure et demie de visite, Jacques Chirac a mis KO pratiquement tous les ministres venus l'accompagner pour cette inauguration. Lionel Jospin s'est éclipsé au bout de 20 minutes, Catherine Tasca et Jack Lang ont tenu 3 bons quarts d'heure, mais rien à faire, l'enthousiasme du président n'a pas faibli. Le président, qui était escorté par Jacques Kerchache, cet amoureux des arts primitifs qui a convaincu Jacques Chirac de la nécessité d'un musée qui leur soit consacré. Un futur musée qui n'a toujours pas de nom, dans son allocution, le président est revenu sur ses difficultés sémantiques.
Art premier, art primitif, les termes sont conventionnels, donc commodes, même s'ils donnent lieu à une querelle sémantique. Ils ont cependant, à mes yeux, le double défaut de définir des sociétés en fonction non de leurs caractéristiques propres, mais de leur contribution ponctuelle à l'histoire esthétique de l'Occident, et surtout, ce qui est plus grave encore, de prétendre désigner des peuples sans histoire. Or, il n'y a pas de plus grande injustice que de refuser à un peuple le droit à l'histoire.
Ces peuples trop longtemps méprisés, tenus à l'écart des grands musées, ils étaient là aujourd'hui, des représentants de la Polynésie, du Mexique, mais aussi Madame Djibaou qui a tenu à poser avec Jacques Chirac devant une sculpture kanak. Tirant Bernadette Chirac par le bras pour lui montrer les masques inuits, discourant avec érudition sur l'art Taïnos devant un Jack Lang ébahi, le président semblait comme chez lui, ici, au musée du Louvre. À quelques pas, un peu en arrière, Pierre Rosenberg, le directeur du musée, ne pouvait que suivre le mouvement.
Pierre Saint-Garavello, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que nous sommes là 2 ans avant la fin du premier septennat de Jacques Chirac, donc il ne sait pas naturellement s'il va être réélu. Vous avez vu le passage du premier ministre de la cohabitation, Lionel Jospin, et de quelques autres. Et dans le même temps, il est notable qu'il soit affirmé que ses collections sont définitivement au Louvre. Voilà qui est un peu surprenant avec le recul.
Oui, Jacques Chirac, à l'occasion de l'inauguration du pavillon des sessions au Louvre en 2000...
C'est le nom, pavillon des sessions.
Le pavillon des sessions se fait, en fait, le porte-voix politique d'une révolution intellectuelle. Il rompt explicitement avec l'ethnocentrisme, avec l'évolutionnisme qui structure bien souvent encore la manière dont on écrit l'histoire et l'histoire de l'art, en l'occurrence. Et donc, de ce point de vue, c'est un discours important et il tiendra un discours tout aussi important en 2006, au moment de l'inauguration du musée du Quai Branly, 6 ans plus tard.
Qui aujourd'hui porte son nom légitimement.
Légitimement, puisque c'est le fondateur, le créateur, naturellement. Mais il faut revenir sur ce nom de musée du Quai Branly, puisque en réalité, il traduit bien la manière dont les différents acteurs ont réussi à trouver une solution à cette querelle sémantique sur comment désigner César, eh bien, tout simplement en dénommant le musée suivant sa localisation, tout simplement.
Provisoirement, puisqu'ensuite c'est selon son fondateur qu'il va être dénommé.
Dans un deuxième temps.
Dans un deuxième temps, mais c'est le premier qui vous paraît le plus important symboliquement.
Bah, disons que la plupart des gens dénomment ce musée encore et toujours musée du Quai Branly.
En l'écoutant et en vous écoutant, on voit bien que ça affirme ce que vous appelez l'hybridité du musée du Louvre. Il s'agit de porter à la fois la technique, l'archéologie, une propagande politique et pas seulement des œuvres de grande beauté.
Oui, disons que le Louvre, en fait, porte toutes ses potentialités en lui depuis sa fondation en 1793 par les révolutionnaires. C'est à la fois le lieu qui doit accueillir les collections royales, donc des collections qui sont les collections gréco-romaines et puis qui se traduisent collections gréco-romaines qui sont reconfigurées et qui inspirent la Renaissance jusqu'au fleuron de la peinture européenne. Et puis ce musée, au fond, porte en même temps d'emblée mission politique, un projet universaliste, un projet qui est celui de l'universalisme des collections, c'est-à-dire que le musée, avec les guerres révolutionnaires puis napoléoniennes, peut et doit accueillir un certain nombre de collections issues d'autres pays européens, à commencer par l'Italie. Et c'est un musée qui s'adresse aussi explicitement, dans l'esprit de ses fondateurs, à l'ensemble des peuples du monde. C'est un musée donc qui est par définition cosmopolite et ça se traduit dans son organisation quotidienne puisque en fait le musée à l'origine n'est ouvert au public français que le dimanche, le jour du Seigneur, alors que les artistes, notamment les nombreux copistes, mais aussi les étrangers et les militaires peuvent y accéder tous les autres jours de la semaine.
Mais dès ce moment-là, on sent une tension entre l'affirmation de l'universalisme, dont témoigne précisément ce que vous venez de dire, et d'autre part le fait que c'est essentiellement la civilisation occidentale qui est promue, célébrée, montrée.
Oui, parce qu'au fond, le musée du Louvre, comme la plupart des grands musées encyclopédiques et des musées universaux, qui sont définis à partir du XVIIIe siècle et donc du British Museum puis du Louvre, eh bien, développent leur modèle à partir d'un schéma qui est celui de la translation artis, c'est-à-dire de considérer que, eh bien, il existerait dans l'espace et dans le temps un principal foyer de création artistique qui correspond au principal foyer de civilisation dans le monde, qui se déplacerait précisément au fur et à mesure, et donc on pourrait le localiser d'abord en Grèce, puis à Rome, puis à Byzance, dans les cités italiennes, puis en Flandre, et naturellement, puisque nous sommes en France, eh bien dans le XVIIIe siècle français, et puis au début du XIXe siècle, les savants du Louvre intègrent dans ce schéma de la translation artis, eh bien l'Égypte, avec l'inauguration du musée égyptien par Jean-François Champollion en 1826, et puis à la Mésopotamie, auquel est consacré un musée assyrien à la fin des années 1840, parce que l'Égypte et la Mésopotamie constituent d'une certaine manière, à partir de ce moment-là, la matrice culturelle et religieuse de l'Europe.
Pierre Saint-Gravello, vous nous entraînez déjà dans votre 19e siècle, et là vous êtes un peu infidèle à votre plan, au plan de votre livre que j'ai le goût de suivre, parce qu'il est assez original. Toute la première partie, vous procédez par un retour en arrière. Vous positionnez contre la linéarité ordinaire, le passé puis le présent. Et donc, nous allons jouer à ça aussi, si vous voulez bien, revenant en arrière, à partir de ce tournant du 20e et du 21e siècle. Alors, revenons en arrière. Pour éclairer ce que nous avons entendu, l'inauguration par Jacques Chirac de cette aile du Louvre qui sera consacrée aux arts primitifs, je voudrais vous faire entendre un récit qui va peut-être vous surprendre, puisqu'il se passe sur une plage à l'île Maurice, et que c'est Jean-Pierre Elkabbach qui s'exprime. Il évoque le moment d'une rencontre entre deux hommes, Chirac d'un côté et Jacques Kerchage de l'autre, vous direz qui c'est, qui aurait été une sorte de moment séminal pour cette grande aventure de ce qui est aujourd'hui le musée Jacques Chirac.
C'était d'abord sur une plage de l'île Maurice. Je ne le connaissais pas. Et un jour, il est venu vers moi et il m'a dit, je vous ai un peu repéré, je crois que vous êtes un journaliste connu. Il y a sur la même plage, à 50 mètres de nous, M. Jacques Chirac et Bernadette Chirac, qui étaient en maillot. Et lui aussi était en maillot, et moi aussi. Et il me dit, est-ce que vous pourriez me le présenter? J'aimerais lui parler. Et je suis allé vers Jacques Chirac et je lui dis à quelqu'un, là, le monsieur qui est là, en maillot, torse nu, qui a envie de s'adresser à vous, de vous dire quelques mots. Et Jacques Chirac a dit, ça y est, c'est fini, il venait d'être battu, je ne suis plus en campagne électorale, je ne veux voir personne. Et c'est sa femme, Bernadette, qui lui a dit, mais il est là, il vous attend, recevez-le ou accueillez-le. Et sur la plage, j'ai présenté donc Jacques Kerchage, que je connaissais à peine, et on n'a pas dit son nom, à Jacques Chirac. Et Kerchage s'est adressé à celui qui était le maire de Paris, il lui a dit, je vous félicite pour ce que vous faites pour l'art. J'ai vu dans Match, sur deux pages, la photo de votre bureau, il est magnifique, et sur votre bureau, vous avez mon livre. Et Chirac lui dit, non, je n'ai qu'un livre, c'est un livre sur l'art africain, c'est un seul livre de Jacques Kerchage. Et il lui dit, ben, c'est moi, Jacques Kerchage. Et tous les deux sont tombés dans les bras l'un de l'autre, ils se sont embrassés, et à partir de là, il y a eu des conversations à la fois sur le sable, sur la plage, et tous les soirs, il y avait des discussions d'experts qui finissaient par me passer par-dessus la tête. Et ils se disputaient pour savoir si telle tribu était passée en 1112 ou en 1180 à tel endroit. Et le verdict, c'était toujours le lendemain. Parce que Kerchage ou Jacques Chirac appelait Paris, se renseignait, venait dire généralement à Jacques Chirac, « Jacques, vous aviez raison. »
Alors, Pierre Saint-Gravello, est-ce que ce serait mythique cette histoire ou c'est un cas intéressant et fréquent pour nous d'un moment clé qui tout à coup a de grandes conséquences? Qui est d'abord ce Jacques Kerchage?
Oui, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que le pavillon des sessions au Louvre et sans doute la création du musée du Quai Branly ensuite en 2006 résulte d'un événement fortuit. De cette rencontre entre Jacques Kerchage et Jacques Chirac.
Le hasard en histoire, nous adorons ça.
Oui, sur une plage privée de l'île Maurice, au Royal Palm.
Ah, vous avez des détails que je ne possédais pas.
En 1992. Et ce sont deux autodidactes en matière d'histoire de l'art qui se rencontrent et qui s'apprécient immédiatement, puisqu'on connaît bien le goût de Jacques Chirac pour les arts américains et asiatiques. Jacques Kerchage connaît très bien les arts africains. C'est un personnage controversé parce qu'il est marchand d'art, certes, collectionneur, mais aussi trafiquant d'art. Il a été arrêté arrêté en 1965 au Gabon. Il a passé quelques temps en prison.
Alors bon.
Et ça ne l'empêche pas, en 1978, de collaborer avec un autre président, le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui lui confie la mission de créer un musée des civilisations noires dès 1978. Et Senghor doit quitter le pouvoir en 1980, et donc ce projet est abandonné. Mais Kerchache milite à partir de ce moment-là en faveur de l'intégration des arts africains au Louvre.
C'est l'occasion de revenir un peu en arrière, puisque les déclarations, les convictions de Kerchache sont déjà anciennes au moment de cette rencontre sur la plage.
Oui, au fond, Kerchache s'inscrit dans une tradition intellectuelle qui, depuis le début du XXe siècle, tente de promouvoir cette insertion des arts africains dans les collections du Louvre. Alors on peut remonter en arrière avec le fameux documentaire « Les statues meurent aussi » d'Alain René avec Chris Marker.
Et ajouter, troisième partenaire, Ghislaine Cloquet.
Oui, Alain René se demande précisément, en 1953, le film sera censuré tout de même, hein, parce que c'est une critique de la colonisation. Au moment même des premières décolonisations, Alain René se demande pourquoi l'art nègre se trouve au Musée de l'Homme, alors que l'art grec ou égyptien est au Louvre. Et en fait, Alain René et ses co-auteurs s'inscrit lui-même dans la lignée de notamment Félix Fénéon, qui en 1920 publie une grande enquête intitulée « Enquête sur les arts lointains ». Les arts lointains seront-ils admis au Louvre ? Enquête dans laquelle il interroge une quinzaine de artistes, militaires, diplomates, critiques d'art, pour leur demander au fond si les arts africains ont leur place au Louvre. Les élites françaises sont plutôt contre l'intégration des arts africains, à l'exception de quelques artistes et des ethnologues comme Arnold Van Gennep, qui milite ardemment.
Grand folkloriste.
En faveur, oui, même père fondateur de la science du folklore, qui milite ardemment en faveur de leur intégration dans le grand musée parisien.
C'est toujours la même controverse. On ne s'étonne pas que le directeur du département de la peinture au Louvre, Jean Guifray, écarte avec horreur cette idée d'intégrer un échantillon des arts africains. Il dit « Les civilisations se ressemblent à leur origine, quelques-unes sont restées dans l'enfance. Il serait paradoxal de rapprocher leur balbutiement, si curieux soit-il, des œuvres les plus parfaites du génie humain pour lesquelles le Louvre déjà manque de place. » Balbutiement contre réussite parfaite.
Oui, 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 il traduit bien, au fond, la vision dominante de l'histoire de l'art de cette époque, est une vision évolutionniste qui, au fond, est même très présente au moment de la fondation du musée d'ethnographie du Trocadéro en 1878, où Viollet-le-Duc, hein, qui fait partie de la commission de fondation, eh bien, lui-même, inspiré par Gobineau, considère tout simplement les Noirs comme incapables de toute création artistique.
Gobineau, c'est l'auteur du fameux essai sur l'inégalité des races humaines.
Oui, publié au mi-temps du XIXe siècle.
Viollet-le-Duc, effectivement, annonce exactement ce que dira le conservateur, puisqu'il s'écrit « Quant aux Noirs, dépourvus de ce régulateur qui n'abandonne jamais l'esprit du blanc, incapable de fixité dans ses idées, il laisse son imagination s'égarer jusqu'à concevoir et enfanter des monstres en toutes choses. »
On voit bien qu'il y a une vision, si vous voulez, racialiste, raciste en l'occurrence, mais aussi différentialiste, qui explique pourquoi Viollet-le-Duc milite fortement en faveur d'un musée séparé. En l'occurrence, du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui permet précisément de protéger d'une certaine manière le véritable art qui est conservé au Louvre.
Ces décennies qui vont en gros de 1880 à l'après-Première Guerre mondiale sont celles de la naissance d'un marché des arts primitifs. Et donc, comme vous le dites, l'essor des musées d'ethnographie. C'est nouveau. Et un certain nombre d'artistes aujourd'hui illustrissimes se sont préoccupés d'en acquérir en particulier. Je pense à Derain, Picasso,
oui,
et Apollinaire.
Tous ces artistes avant-gardistes du début du XIXe siècle sont parmi les premiers collectionneurs d'art africain, d'art océanien aussi. Ils se regroupent bien souvent autour de Paul Guillaume, qui ouvre une des premières boutiques qui vend ses artefacts.
Grand galeriste.
grand galériste. Et c'est intéressant parce qu'on voit comment Paul Guillaume, dans sa galerie, dès 1914, associe directement dans ses expositions des œuvres d'art moderne et des œuvres d'art africain et océanien. Ce qu'on va retrouver plus tard avec Senghor dans son projet du musée dynamique de Dakar.
Vous parlez de Senghor, eh bien, il faut que je vous fasse entendre sa voix alors. Pierre Saint-Gravelou. Voilà un extrait de son discours à Dakar lors du Festival mondial des arts nègres de 1966. Et vous allez voir quel parti il prend.
On continue, ça et là, de par le monde, à nier l'art nègre avec la négritude, je veux dire, les valeurs nègres de civilisation. Et quand on ne peut plus le nier, cet art nègre, tant il est manifeste, on veut lui enlever son originalité, sa vérité humaine. On ne peut nier longtemps l'art nègre. D'autant que ce sont les Européens eux-mêmes qui les premiers l'ont découvert et défini. Les Négro-Africains préféraient le vivre. Ce sont les plus éminents des artistes et des écrivains européens qui l'ont défendu. Il a fallu que Rimbaud se réclamât de la négritude. Que Picasso fut ébranlé par un masque bâlé, qu'Apollinaire chanta les fétiches de bois, pour que l'art de l'Occident européen consentît, après 2000 ans, à l'abandon de la fuseos mimesis, de l'imitation de la nature. Mais il ne s'agit pas seulement de défendre l'art nègre du passé. Il s'agit plus encore de l'illustrer en montrant que cet art est au milieu du XXe siècle, comme l'a montré André Malraux, une source jaillissante qui ne tarit pas. Un élément essentiel parce que signifiant de la civilisation de l'universel qui s'élabore sous nos yeux, par nous et pour nous, par tous et pour tous.
C'est bien le camp des universalistes qui s'exprime par la voix de Senghor. Cette source jaillissante qui ne tarit pas, elle est une parmi d'autres et à égalité.
Oui, ça correspond, si vous voulez, à la définition philosophique de la négritude par Senghor, dont ce festival doit être la traduction artistique et culturelle, c'est-à-dire dans quelle mesure les valeurs spécifiques, dans l'esprit de Senghor, les valeurs spécifiques des cultures noires peuvent contribuer, enrichir la civilisation universelle. Et de ce point de vue, le festival de 1966 à Dakar est un moment très important, puisque c'est la première fois qu'autant d'artistes, d'écrivains de tout le continent africain, mais au-delà des États-Unis, de la Caraïbe, se réunissent à Dakar. Et Senghor organise une grande exposition, qui est le clou du festival, une exposition intitulée « L'art nègre », où sont exposés ces artistes contemporains africains ou d'origine africaine. Et il faut noter qu'il y a une cinquième section, dernière section dans cette exposition, qui est intitulée, si je me souviens bien, « Dialogue avec le reste du monde », où au fond, ces œuvres africaines dialoguent avec les artistes contemporains européens.
À égalité.
À égalité, avec Picasso, avec Fernand Léger, ce qui nous rappelle ce dialogue initié au début du XXe siècle, qu'encourageait fortement Apollinaire et Paul Guillaume.
Mais vous nous montrez aussi, Pierre Saint-Gravelou, que si on remonte en arrière, on trouve déjà ce débat en particulier sur la vocation éventuellement anthropologique du Louvre, si on remonte à 1800 et même à la Révolution française.
Oui, en fait, ce qui est particulièrement intéressant avec tous ces débats sur l'art africain au Louvre, c'est qu'ils oublient tous, sans aucune exception, le fait qu'il existe un musée d'art africain, plus précisément un musée ethnographique, sans doute le premier musée ethnographique du monde occidental, fondé au Louvre en 1850. Qui est à l'origine une annexe du musée de la Marine et qui est un musée qui accueille des milliers de pièces, principalement d'Asie orientale, d'Océanie, d'Afrique, d'Amérique, et qui, au fond, va continuer à exister jusqu'au transfert de ses collections au musée d'ethnographie du Trocadéro au début du XXe siècle.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors je voudrais maintenant, Pierre Saint-Gravelou, je voudrais que nous braquions l'attention sur un certain nombre de cas de ces mini-musées, vous avez accepté l'expression, ces musées spécifiques logés à l'intérieur du grand musée. Et peut-être faut-il commencer par la marine, vous l'avez déjà évoqué, il y a une façade maritime du Louvre.
Vous avez raison Jean-Noël, il n'existe pas un seul et même musée du Louvre, hein, contrairement à ce qu'on croit. Il existe quasiment dès le début du 19e siècle plusieurs musées, plusieurs guichets, plusieurs entrées. Et donc on parle à l'époque des musées au pluriel du Louvre. Et ces musées ont pour la plupart disparu. Ils ont la plupart disparu ou alors ils ont été transférés ailleurs. Comme par exemple le musée de marine qui s'intitulait le musée naval auparavant, et voire même le musée dauphin au moment de sa création en 1827.
Pas à cause du dauphin de la mer mais à cause du fils du roi, c'est ça ?
Précisément. Et donc ce musée de marine, en fait, eh bien, il illustre bien cette tradition navale du Louvre qui est très ancienne. En réalité, le Louvre accueille des modèles réduits de bateaux dès le milieu du XVIIIe siècle dans la fameuse salle de la marine du Louvre qui sert à former les officiers de l'armée, de la marine française en l'occurrence. Et ces modèles réduits, ces bateaux, vous savez, c'est Colbert qui, dès la fin du XVIIe siècle, eh bien, commande ces maquettes de bateaux dans tous les arsenaux de France. Avant de valider la construction de tel ou tel navire, eh bien, il demande ses reproductions au 20e et ces reproductions qui enrichissent les collections royales et puis les collections aristocratiques parce que ça devient une véritable mode de les collectionner. Mais ces modèles réduits ont une utilité d'abord et avant tout dans la formation des officiers de marine qui continueront ensuite à passer plusieurs jours de leur formation chaque semaine dans le musée de marine du Louvre au 19e et au début du 20e siècle.
Il y a aussi les maquettes des ports, ça c'est plutôt d'ailleurs, c'est plutôt Louvois que Colbert qui s'en est mêlé. Et l'idée est de pouvoir mettre sous les yeux du souverain une sorte de représentation réduite de toutes ces ouvertures vers la mer.
Précisément, c'est à la fois un outil pour faire la guerre, extrêmement précieux, mais c'est aussi un instrument de prestige qui permet de montrer évidemment l'appropriation du territoire par le souverain. Ce sont des plans-reliefs de très grande taille et d'une précision étonnante qui sont là aussi exposés au musée de marine du Louvre.
D'ailleurs, c'est un peu surprenant, enfin je ne sais pas, elles sont à Lille aujourd'hui ces maquettes.
Elles ont été pour beaucoup transférées à Lille, mais pas seulement. Le fameux plan-relief de Rochefort est aujourd'hui au musée de Rochefort, par exemple.
Alors, je vais vous faire écouter un extrait de l'essai sur la construction navale des peuples extra-européens de François Edmond Paris. C'était un amiral. D'autres conservateurs se sont plaints. C'était le seul militaire qui jamais été conservateur au musée du Louvre. C'est une lecture de Philippe Lodenbach dans La Marche des sciences d'Aurélie Luneau sur France Culture, le 8 avril 2010. Paris vantant le musée de marine et ses productions.
Oui, c'est un cas exceptionnel puisque le musée de marine possède son propre atelier qui fabrique et répare ses modèles réduits et qui, de plus en plus, alors dans l'histoire du musée de marine, plus d'une centaine de modèles ont été élaborés de cette manière. Et il faut dire que le directeur du musée de marine, Edmond Paris, y participait personnellement, à la fois en contribuant au gréement des navires, mais aussi en investissant sa paye dans l'achat du matériel.
Eh bien, écoutons le 1841.
Le génie de l'homme a fait du vaisseau un être animé qui parcourt toutes les périodes de la vie, car il se meut, attaque et résiste, souffre et meurt de vieillesse ou d'accident violent. C'est le plus beau chef-d'œuvre de l'esprit humain. Aucun monument, aucune invention n'égale son merveilleux ensemble. Et quoique devenu vulgaire, comme tout ce que l'on voit journellement, il n'en mérite pas moins l'admiration que l'on prodigue si facilement à d'autres objets. Chez les peuples, même les plus sauvages, ce qui a rapport à la navigation dénote un degré d'intelligence que, souvent, on chercherait en vain dans la manière dont ils bâtissent leurs habitations ou subviennent à leurs premiers besoins. Cela se conçoit aisément, car de misérables aliments et de pauvres cabanes leur suffisent, tandis que pour affronter les dangers de la mer, d'où ils tirent leur subsistance, Il leur faut des embarcations solides et capables de résister au mauvais temps.
C'est une belle justification de l'existence de musée de marine par son fondateur, Pierre Saint-Garavello. Ça n'empêche pas qu'on retrouve toujours cette opposition, qu'il y a beaucoup d'ironie. Par exemple, je vois que dans le journal des débats, qui est vraiment le journal de la bourgeoisie fait journal, cet article de 1899, qui fait grand bruit, ultérieur, le musée de marine n'a rien d'artistique. On y voit surtout un amas de modèles très intéressants pour les amateurs d'archéologie navale, mais qui seraient mieux à leur place dans un musée militaire ou industriel. Quelle peinture, c'est à faire blêmir les amis du Louvre.
Oui, c'est un musée qui est en effet très critiqué, stigmatisé par les conservateurs du Louvre, et notamment les conservateurs des Beaux-Arts et des Antiques. C'est un musée qui est très critiqué, peut-être parce qu'il est plébiscité par le public. C'est le musée sans doute le plus populaire du Louvre. Il accueille énormément d'enfants, de scolaires. On y décrit beaucoup le passage de classes plus, disons, populaires dans ces salles. Et donc, c'est un musée qui suscite des jalousies. L'extrait du directeur Edmond Paris est très intéressant à cet égard, parce qu'il nous rappelle, au fond, sa vision du monde. Pour lui, les bateaux, les navires sont d'une certaine manière les moteurs de l'histoire de l'humanité. C'est le principe d'explication de la réussite de l'Occident à travers ce qu'on appelait les grandes découvertes, ces grandes explorations. Et il ne s'arrête pas là, puisqu'il propose une histoire mondiale de la marine. Et c'est bien l'originalité du projet intellectuel et muséographique d'Edmond Paris. Et cette histoire mondiale de la marine, eh bien, elle prend la forme au musée de marine, eh bien, de multiples maquettes. Nous avons parlé des modèles réduits des vaisseaux de Louis XIV. Mais là, il s'agit de navires issus des quatre coins du monde, hein, et notamment d'Asie, de l'océan Indien, des côtes africaines, que Edmond Paris, eh bien, reproduit à partir des dessins qu'il a lui-même effectués lors de ses nombreuses expéditions tout au long du XIXe siècle. Il les fabrique avec ses artisans et ses maquettistes au sein de l'atelier du Louvre. Et donc, il expose, au fond, ses bateaux. Il théorise cette nouvelle discipline, l'ethnographie nautique. Il va publier toute une série d'articles sur ces bateaux des quatre coins du monde. Par exemple, il s'intéresse beaucoup aux pirogues à balancier, c'est-à-dire ces bateaux utilisés par les Austronésiens au début du premier millénaire et qui vont leur permettre, pendant presque 1000 ans, eh bien, de conquérir, de peupler tout le Pacifique, c'est-à-dire un tiers de la planète, grâce à ces bateaux qu'ils ont inventés. Et Edmond Paris s'est fasciné par ces bateaux parce qu'ils n'existaient pas dans le monde occidental et qu'ils permettaient de parcourir de très longues distances.
Alors ces riches collections, elles ne sont pas restées au Louvre. Et cela est effectivement assez topique, assez représentatif d'une évolution.
Finalement, elles ont été transférées avec l'ensemble des collections du musée de marine au Trocadéro.
Côté Passy.
Précisément pendant, disons, la Seconde Guerre mondiale.
Je voudrais faire une parenthèse puisque vous évoquez le succès populaire de ce musée de marine. C'est une question qui a aussi beaucoup agité l'opinion publique pendant ces deux siècles. En marge de la question de la légitimité ou non de la présence de collections lointaines ou différentes dans le musée. Georges Clemenceau s'y est beaucoup intéressé dans plusieurs de ses articles à la fin du 19e siècle qui ont été rassemblés dans Le Grand Pan. Il propose deux initiatives. D'une part, la gratuité, ce qui n'était pas le cas depuis un certain temps. Et d'autre part, cette idée de faire dans Paris des petits musées avec quelques œuvres qui seraient dispersées et qui permettraient à chacun d'avoir accès en quelque sorte au grand musée en passant par un intermédiaire, chacun en particulier du côté des classes les plus populaires.
Oui, Clemenceau, d'ailleurs, va encourager le Louvre et les autres musées français à développer leurs collections, notamment d'art asiatique.
Il collectionnait en effet beaucoup d'œuvres japonaises et il reste très célébré au musée Guimet aujourd'hui. Alors en dehors du musée de marine, Pierre Saint-Garavello, il y a d'autres musées, petits musées à l'intérieur du Grand qui méritent d'être évoqués. Et naturellement, pour certains d'entre eux, il y a un lien direct avec la colonisation française au Maghreb. L'archéologie devient, en somme, une servante de la colonisation, avec souvent une insistance sur une filiation romaine.
Oui, c'est très important. À partir de 1830 et de la conquête d'Alger, l'appropriation du territoire algérien a été très longue, hein, jusqu'au moins aux années 1870. Et au cours de ces décennies, les officiers, plus largement les militaires français, portent une attention particulière à certains sites archéologiques, à certaines ruines, comme on les appelle, les ruines romaines. Hélène Blais a bien montré à quel point ces ruines romaines étaient très présentes sur les cartes militaires élaborées par les Français dès les années 1830.
Tipaza, par exemple.
Tipaza. Les Français considèrent que, dans le cadre de ce qu'on peut appeler la translation imperii, c'est-à-dire le transfert du pouvoir entre les différents empires dans l'espace et dans le temps, eh bien les Français du XIXe siècle seraient les continuateurs des Romains de l'Antiquité, précisément au Maghreb, dans ce qu'on appelait l'Afrique du Nord. Et les Romains offrent aux colonisateurs français tout un répertoire de bonnes pratiques qu'il faudrait imiter. Et c'est pourquoi ils vont s'appliquer à identifier, localiser et conserver ces vestiges romains au Maghreb.
Mais au Louvre ou pas au Louvre?
C'est toute la question.
C'est toute la question. Écoutez donc ce reportage à l'occasion de l'exposition artistique de l'Afrique française qui est inaugurée par le président de la République, Vincent Auriol, le 24 juillet 1947.
Monsieur Vincent Auriol, président de la République, accède aux grandes galeries toutes blanches du palais de New York. Le président de la République visite rapidement les quatre salons réservés à l'Afrique, à l'Algérie, à la Tunisie et au Maroc. Nous allons demander à Monsieur Al-Azhar, directeur du musée des Beaux-Arts à Alger, de bien vouloir nous dire tout ce que représente cette exposition.
Cette exposition est la deuxième qui a lieu à Paris. L'exposition actuelle comprend environ 730 toiles qui viennent du Maroc, qui viennent de la Tunisie, qui viennent de l'Algérie. Cette exposition, elle offre véritablement un bilan tout à fait sincère de la place que représente l'Afrique du Nord dans la peinture française.
Et si Monsieur le Président de la République veut bien nous permettre, nous allons lui demander ses impressions.
Vous me demandez vraiment des tours de force dont je ne suis pas capable. Vous me demandez une impression générale sur une exposition qui comprend 700 tableaux alors que mes yeux sont pleins de couleurs. Comment voulez-vous que je fasse? Je vous dirai une chose. Je conseille à tous ceux qui viennent à Paris et à tous les Parisiens, bien entendu, de venir visiter cette exposition. D'abord, ils rendront hommage à ceux d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et de France qui en ont pris l'initiative et qui l'ont organisée. En vérité, on voit quel a été le rôle de la France et quel est aussi le talent et le génie particulier des enfants de notre terre africaine.
Là, on est au Palais de New York, sur l'avenue Wilson, mais il a existé. C'est un des petits musées à l'intérieur du Grand. Il a existé un musée algérien au Louvre qui a été inauguré le 28 décembre 1847.
Ce musée algérien, qui deviendra ensuite le musée africain, doit accueillir des œuvres romaines, d'abord d'Algérie, puis de Tunisie. Il sera beaucoup critiqué par les conservateurs du Louvre, car ces derniers considèrent que ces œuvres romaines d'Afrique du Nord, eh bien, ne correspondent pas au canon classique italien. Et donc les conservateurs chercheront à le mettre de côté, à le déménager dans des salles moins exposées, et il sera progressivement oublié après sa fermeture en 1895.
D'autres antiquités qui sont présentées par certains comme pas encore classiques sont celles qui viennent d'Amérique du Nord, du Mexique. Le musée mexicain mérite aussi qu'on s'y arrête un instant.
Oui, le musée mexicain est créé à peu près au même moment, en 1850. Il est fondé à partir d'une collection très riche, qui est la collection qui a été rassemblée par un certain Latour Allard. qui cherche à tout prix
à la vendre
pour la somme de 200 000 francs à l'époque, et finalement
il la vend
pour une bouchée de pain à un intermédiaire qui la vendra lui-même pour 6 000 francs au Louvre. Et le Louvre, grâce à ses œuvres en aztèque, en grande partie, crée ce musée mexicain qui en fait est dirigé par Adrien de Lomperrien, un conservateur du Louvre, qui adopte une position très novatrice, puisque avec ce musée mexicain, il développe les travaux comparatistes au sein du Louvre, ce Louvre qui se transforme en une espèce de laboratoire de la comparaison des arts du monde. Il cherche au fond à revisiter la notion d'antiquité en ne restant pas focalisé sur les classiques, précisément, vous l'évoquiez il y a quelques secondes, et en intégrant au fond d'autres traditions, et en l'occurrence la tradition amérindienne, dans cette grande histoire de l'art.
Comparer, ça veut dire mettre éventuellement au même niveau.
Dans l'esprit d'Adrien de Lomperrier, il s'agit précisément, oui, de comparer en mettant au même niveau, en ne hiérarchisant pas les différentes civilisations et les différentes cultures. Nous sommes en 1850, c'est révolutionnaire, ça ne plaît pas à tout le monde, loin de là, y compris au sein du Louvre et notamment du côté des conservateurs des antiques. C'est pourquoi il utilise cette expression « pas encore classique » pour ne pas froisser certains de ses collègues et certains critiques d'art, tout en réaffirmant le fait que le fait d'intégrer le Louvre les consacre comme classiques.
Mais c'est un musée mort-né.
C'est un musée qui, disons, continue à exister quelques années avant que ses collections rejoignent le Trocadéro en 1887.
Entre-temps, il y a eu la guerre du Mexique.
Au cours de laquelle, eh bien, les Français tentent de récupérer un certain nombre d'œuvres.
Napoléon
III. Ils en sont aussi empêchés parce que partout dans le monde, dans l'Empire ottoman, mais aussi au Mexique, des politiques de conservation se mettent en place et empêchent ce type de prédation.
Alors, quid de l'Indochine ? Parce qu'on retrouve l'idée colonisatrice. Il y a à la fois l'Indochine, la Cochinchine, mais il y a aussi le Cambodge qui est rudement intéressant.
Oui, parce que, en fait, c'est, là, pour le coup, c'est un projet de musée inabouti. En 1873, Louis de Laporte, un marin qui s'apprête à mener une expédition au Cambodge, à Angkor, propose au musée du Louvre d'ouvrir un nouveau musée. Un musée indochinois qui serait destiné à élargir encore la définition des antiquités au monde khmer, hein, donc d'accueillir ces antiquités khmer. Il se rend sur place dans les temples d'Angkor.
Il prend un certain nombre.
Récupère un grand nombre de sculptures.
Bien avant que Malraux en ait volé une.
Bien avant, évidemment, l'histoire des années 20 de Malraux.
Au temple de
Bantesrai, précisément. Et il adresse une centaine, 103 caisses précisément, de sculptures khmer au Louvre. Et ces caisses ne sont jamais ouvertes par les conservateurs du Louvre, alors qu'elles sont entreposées dans la cour pendant 4 mois.
Voilà qui est symbolique, voilà qui est représentatif.
Ces différents savants prétendent qu'ils ne sont pas aptes à évaluer la qualité de ces œuvres. En réalité, ils ne souhaitent pas ouvrir un nouveau musée consacré aux antiquités khmer. Et ces œuvres finiront par rejoindre Compiègne, où est inauguré un musée indochinois avant d'être rapatrié à la fin du siècle.
Dans le château de Compiègne ?
Oui.
Le château de Napoléon III ?
Oui.
Avant d'être rapatrié au Trocadéro, puis au musée Guimet. Encore une fois, un très grand musée, mais spécialisé. Il faut aussi saluer le rôle d'Adhémar Leclerc, qui a été résident de France au Cambodge en 1886, et qui a également joué un rôle très important. Il avait été nommé également par Clémenceau, qui décidément est très présent dans cette émission.
Oui.
Alors, autre exemple sur lequel il faut s'attarder un instant, Pierre Saint-Gravelou, c'est le musée espagnol, qui fut d'abord une galerie espagnole.
C'est Louis-Philippe, en 1838, qui inaugure ce musée espagnol, cette galerie espagnole au Louvre. C'est son grand projet, c'est un projet personnel. Il a décidé, et là aussi il y a une raison politique à l'origine de cette idée, d'illustrer au fond les liens de parenté qui unissent sa famille à la couronne d'Espagne. Il a lui-même passé du temps en Espagne en 1810 à Cadix, où il prétend être l'enfant d'Espagne. Et donc il veut absolument consacrer un des musées du Louvre à la peinture espagnole du siècle d'or.
Et il attribue à la galerie espagnole une mission civilisatrice, ce qui est déjà une manière de parler à hauteur d'universel.
Oui, c'est important parce que, au fond, cette mission civilisatrice du Louvre et de la France ne s'applique pas seulement qu'à ses colonies ou bien à son empire informel lorsqu'on parle du Mexique. Elle s'applique aussi à ses voisins européens. Et en l'occurrence, les Français, en l'occurrence les élites françaises et Louis-Philippe et son entourage, considèrent qu'il faut sauver l'art espagnol des Espagnols eux-mêmes, qui sont réputés incapables de le conserver. C'est ça le discours. Et Louis-Philippe se présente comme le sauveteur de l'art espagnol. Et
donc, c'est pourquoi... double légitimité, si je comprends bien, à la fois pour le musée du Louvre qui sera enrichi et pour l'Espagne qui sera préservée dans sa gloire artistique.
Exactement, puisque seul le Louvre dans le monde peut consacrer au fond les arts des différents pays d'Europe et du reste de la planète. Et donc, pour ce faire, Louis-Philippe envoie le baron Taylor. Il était commissaire général du théâtre français et il monte un commando entouré de peintres et de connaisseurs de l'Espagne et de la scène artistique ibérique. Nous sommes à la fin 1835 et ce petit groupe va essayer de récolter un maximum d'œuvres d'art, 450 toiles de maîtres qui sont récupérés à ce moment-là. Nous sommes en plein dans les guerres carlistes et donc les biens des congrégations ont été mis en circulation précisément à ce moment-là. Et donc Taylor peut acheter énormément de toiles qui étaient conservées dans les couvents, par exemple. Et ils vont ainsi constituer la plus grande collection de peintures espagnoles, avec des Velázquez, des Ribera, Zurbarán, des Goya également, qui vont être conservés dans ce musée espagnol du Louvre, qui accueille plus de toiles que le musée national du Prado à la même époque.
Mais hélas, la fin est triste.
Oui, on peut le dire ainsi, puisque en fait, en 1848, avec la Révolution, Louis-Philippe et ses enfants décident de conserver l'ensemble de cette collection et de la transférer à Londres, où elle sera vendue chez Christie's en 1853.
Où l'ancien roi est en exil.
Précisément. Et aujourd'hui encore, plus de la moitié, c'est-à-dire plus de 200 tableaux, ne sont toujours pas localisés.
Il faut que nous terminions notre inventaire, Pierre Sagaravelu, de tous ces petits musées à l'intérieur du Grand Louvre, en parlant de l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient au Louvre, avant qu'aujourd'hui il soit plutôt ailleurs.
J'ai choisi d'y consacrer ma dernière partie parce que il se trouve que de très nombreux visiteurs célèbres et anonymes d'origine asiatique depuis la période de la Révolution française ont parcouru les galeries du Louvre et parallèlement, c'est ça qui m'a intéressé, le Louvre conserve de plus en plus d'œuvres et d'artefacts d'origine asiatique tout au long de cette période.
Il acquiert en particulier une collection majeure de musées chinois et japonais de Paul Gignier en 1844.
Oui, à la suite, en fait, de la première guerre de l'opium, Paul Gignier constitue une collection d'œuvres d'art assez hétéroclite, hein, qui correspond plus à ce qu'on appelle à cette époque un musée commercial qu'aux collections traditionnelles d'un musée d'art. Il n'empêche que le Louvre acquiert une partie de cette collection et ça va être, si vous voulez, ça constitue le noyau du musée chinois du Louvre qui est inauguré en 1850.
Avant la seconde guerre de l'opium, qui voit le sac du Palais d'été qui n'est pas sans conséquence sur l'histoire que nous évoquons aujourd'hui. Et je ne peux pas vous priver de la lecture de cette lettre de Victor Hugo à ce propos, très célèbre. De Victor Hugo, un interlocuteur britannique,
oui.
Et elle remonte au 25 novembre 1861. Il s'agit du sac du Palais d'été à Pékin. Cette lettre est lue ici par Daniel Königsberg dans La fabrique de l'histoire d'Emmanuel Laurentin sur France Culture le 17 septembre 2008.
Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le Palais d'été. L'art a deux principes, l'idée, qui produit l'art européen, et la chimère, qui produit l'art oriental. Le Palais d'été était à l'art chimérique ce que le Parthénon est à l'art idéal. Tout ce que peut enfanter l'imagination d'un peuple presque extra-humain était là. Ce n'était pas comme le Parthénon, une œuvre rare et unique, c'était une sorte d'énorme modèle de la chimère, si la chimère peut avoir un modèle. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. l'un a pillé, l'autre a incendié. La victoire peut être une voleuse à ce qu'il paraît. Une dévastation en grand du palais d'été s'est faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France. L'autre s'appellera l'Angleterre. L'Empire français a empoché la moitié de cette victoire, et il étale aujourd'hui avec une sorte de naïveté de propriétaire le splendide bric-à-brac du palais d'été. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée, nettoyée, renverra ce butin à la Chine, spoliée. En attendant, il y a un vol et deux voleurs, je le constate.
C'est une lettre qui part de Guernesey en 1861 et Napoléon III est au pouvoir en France. On retrouve exactement l'opposition entre civilisation et barbarie qui circule à travers toute notre conversation.
Oui, vous savez, j'ai lu ces mots de Victor Hugo en Chine même, sur le site du Palais d'été, du Yuan Min Yuan, comme on dit en chinois.
Vous avez écrit un livre important sur la Chine, nous l'évoquons tout à l'heure dans la bibliographie.
Parce que ces mots sont reproduits, gravés sur un livre en marbre, au milieu des ruines du palais et à proximité du buste de Victor Hugo, qui est considéré comme un grand ami de la Chine aujourd'hui. Et ce que dit Victor Hugo est très juste en 1861, c'est-à-dire que les Français ont débuté en 1860, en octobre 1860, ce grand pillage qui bouleverse le marché de l'art asiatique à l'échelle mondiale, puisque environ 1 million d'objets, d'artefacts seront pillés puis transportés alors ailleurs, pas seulement dans le reste du monde, également en Chine.
Pour le bonheur des marchands et des collectionneurs.
Oui, et d'autre part, les autres Européens, dont les Britanniques, se joindront à ces Français dans les pillages qui donneront lieu à des ventes aux enchères. Par exemple, entre 1861 et 1863, 21 ventes aux enchères sont organisées à l'hôtel Drouot. C'est énorme. Et sans parler de tous ces objets qui sont rapportés dans chaque famille par les vétérans de cette deuxième guerre de l'opium.
Alors que font les musées en face de cette offre soudaine ?
Il faut d'abord dire que ce qu'on sait moins, c'est que Victor Hugo dit la vérité, mais ne dit pas tout. C'est-à-dire que parallèlement, il collectionne, lui, comme tout le monde, les objets chinois et les œuvres chinoises.
Ne déboulonnez pas sa statue.
Alors,
s'il vous plaît.
Nous savons que Victor Hugo a collectionné au moins 42 œuvres d'origine chinoise, dont un certain nombre sont issues du pillage du palais d'été, comme lui-même le note en 1865 dans son agenda. Hein, il précise « Je viens d'acheter aujourd'hui des soieries qui ont été pillées lors du sac du palais
sans
d'été. »
Sans gêne.
Non, disons que c'est son agenda, donc il ne l'a pas publié. Mais les musées du monde entier, à l'image de Victor Hugo, accueillent des œuvres issues du pillage, et des petits comme grands musées, c'est-à-dire que nous retrouvons cela dans les petits musées français, britanniques, américains, et nous retrouvons cela au Louvre également, puisque un certain nombre d'œuvres issues du pillage vont intégrer ce musée chinois du Louvre. Et puis ensuite, les salles de la céramique chinoise ouvertes en 1893 par Ernest Grandidier, qui constitue la plus grande collection de céramique chinoise au monde, et qui lui indique très fièrement que certaines œuvres sont issues du pillage, parce que c'est une garantie de leur grande beauté et de leur rareté. Parce que je vous rappelle qu'avant les pillages de 1860, eh bien la plupart des œuvres d'origine chinoise auxquelles les collectionneurs européens ont accès sont des articles dits d'exportation, c'est-à-dire de bien moindre qualité que les œuvres qui ont été réalisées pour l'aristocratie ou la famille impériale chinoise.
Celles-ci sont donc considérées par les conservateurs d'assez haute valeur pour être confrontées à l'héritage occidental.
Elles sont considérées comme de très grande valeur, et Ernest Grandidier explique cette question des provenances. Vous voyez, cette question des provenances, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais Grandidier précise que, par exemple, le vase aux mille fleurs, qui est une céramique magnifique conservée à ce moment-là au Louvre, provient du sac du Palais d'été. Aujourd'hui, elle est conservée au musée Guimet, et sur le cartel du musée Guimet, cette provenance n'est pas indiquée.
Alors, le musée chinois reste un moment au Louvre. Il y a aussi une salle japonaise qui est créée dans les années
1890 ?
Oui, cette salle japonaise est créée à peu près au même moment que la salle des céramiques chinoises. Nous avons évoqué Clémenceau il y a quelques instants. Cette salle japonaise, au fond, profite des dons de collectionneurs comme Samuel Bing, comme Hayashi Tadamasa, qui est le grand collectionneur japonais qui ouvre une boutique qui, dans la seconde moitié du 19e siècle...
C'est le moment du japonisme, le Japon est à la mode.
Et c'est Hayashi Tadamasa qui alimente, au fond, tous les collectionneurs, notamment les peintres impressionnistes, les frères Goncourt, etc., qui
place
sont très
estampes,
friands de ces estampes japonaises.
Ces œuvres sont restées au Louvre combien de temps ?
Ces œuvres japonaises sont restées au Louvre jusque à la Seconde Guerre mondiale, puisque au fond, dans l'entre-deux-guerres, est fondé un département des arts asiatiques, mais que ensuite on décide de transférer l'ensemble de ces œuvres au musée Guimet, qui devient le musée national des arts asiatiques.
Donc il y a toujours constamment, au cours des siècles que nous venons ensemble de considérer, Pierre Saint-Gravelou, cette espèce de va-et-vient entre l'idée d'une centralisation un peu fédérale des œuvres au musée du Louvre et l'idée qu'il vaut mieux les mettre lorsqu'elles sont exogènes par rapport à notre grande tradition occidentale ailleurs. C'est bien ça ?
Oui, bien entendu. On voit, c'est la preuve que, en fait, les grands musées sont des musées vivants, des laboratoires d'expérimentation et de réflexion sur cette histoire globale des arts.
Ça convient assez bien aux historiens d'aujourd'hui. D'élargir la curiosité jusque-là.
C'est une source d'inspiration formidable, y compris lorsqu'on s'intéresse à un musée qui est censé être le musée du génie artistique français, comme le musée d'Orsay, le génie de l'impressionnisme notamment. On s'aperçoit, au fond, que ces musées ont accueilli des artistes du monde entier.
Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que votre ouvrage sur lequel nous avons fondé cette conversation, Pierre Saint-Gravelou, s'intitule « Fantômes du Louvre ». Avec comme sous-titre, ça ne surprendra pas nos auditeurs et nos auditrices, « Les musées disparus du XIXe siècle », paru aux éditions Hazan en 2023. Antérieurement, vous avez publié ce livre, vous venez d'évoquer ce thème, « Les mondes d'Orsay au seuil », paru avec la contribution du musée lui-même en 2022. Et puis je rappelle que nous étions déjà rencontrés à ce micro deux reprises, une fois pour parler de l'Uchronie qui nous est chère à tous les deux. Vous avez fait un livre avec Quentin Deluermoz là-dessus.
Oui, pour une histoire des possibles.
Je ne sais pas si on pourrait faire de l'Uchronie pour cette histoire des musées, du musée du Louvre en particulier. Quoique, pour le dernier événement que nous savons, cela serait sûrement possible. Et puis une autre fois, vous étiez venu, vous devenez quasiment un habitué, vous allez faire des jaloux. Vous êtes venu à propos d'un livre important que vous aviez consacré à Tianjin, Cosmopolis. Expliquez-nous ça, rappelez-nous ça.
Oui, il s'agissait d'une monographie sur la guerre des boxeurs, qui est la première guerre mondiale, qui a lieu en Chine, dans cette ville de Tianjin. La plupart des grandes puissances de la planète s'allient pour réprimer cette révolte, cette révolution d'une partie de la jeunesse chinoise.
En ce qui concerne notre sujet, il faut rendre hommage à deux ouvrages, opus magnum l'un et l'autre. D'abord le musée du Louvre, l'histoire du Louvre de Geneviève Bresque-Bautier et Guillaume Fonquenelle, paru chez Fayard en 3 volumes en 2016. Et puis de Christophe Pomian, le musée, une histoire mondiale, paru chez Gallimard dans la collection prestigieuse de la Bibliothèque des Histoires. 3 tomes entre 2020 et 2022. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son Fabien Gosset, avec Keating Wang à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.